La situation telle qu'on avait laissée à la paracha précédente. Yosef a piégé Binyamin. Il a mis dans son sac la coupe, sa coupe personnelle. Et ensuite, on a accusé Binyamin de l'avoir volée. Et quand ensuite on a parlé de la sanction, et Yosef a dit ultimement, finalement, il a dit non, Binyamin va rester là chez moi, mais vous retournez chez votre père et apportez-lui à manger. Vous avez acheté du blé, apportez-le. Vaigash Elav Yuda. Yuda s'est approché de Yosef. Et il lui a dit, Bi Adoni, Yedabernav de Chadavar, de Ozne Adoni, que ton serviteur, mon Seigneur, que ton serviteur ait le droit en quelque sorte. De parler Be'ozne Adoni, de parler dans l'oreille de mon Seigneur, et ne te mets pas en colère pour cela contre ton serviteur, parce que tu es aux yeux de ton serviteur, tu es comme pour lui, tu es comme Paro. C'est-à-dire, a priori, la première lecture, c'est tu es vice-roi, mais je te considère comme si tu étais le roi. Alors, Rashi, il s'arrête sur Daber Beozne, et Daber Naav de Chadavar Beozne Adoni. Cette histoire de lui parler à l'oreille. Rashi dit, cite d'abord un premier midrash, il ne dit pas du tout qu'il lui a parlé à l'oreille. Premier midrash dit, Ikansu dvarai beoznecha. Littéralement, ça veut dire que mes paroles entrent dans ton oreille. En d'autres termes, ça veut dire, écoute-moi bien. C'est une première lecture. Valichara et ne te mets pas en colère. Il n'a encore rien dit. Pourquoi il se met en colère? Alors Rashi a dit, tu as de bonnes raisons, tu aurais des raisons de te mettre en colère parce que Mikan Atalomed, chez Diberelav Kachot. De là, on entend qu'il lui a dit des choses très dures. Donc il lui dit, on n'a pas le. Enfin, on va voir la suite du dialogue, mais là. Le verset parle déjà comme si ils avaient déjà parlé entre eux. Qui kamocha ke paro, car tu es comme Paro. Alors, la première traduction, c'est l'explication, c'est Chashuvata beinai kemelech zeupshuto. Le pshat, c'est pour moi, tu es le roi. Tu es aussi important que le roi. Bien que tu ne sois que vice-roi, pour moi, c'est comme. Donc, si tu veux, dans ma démarche, il n'y a aucune lèse-majesté. C'est-à-dire, ne prends pas mal, t'imagines pas que je me permette de te parler durement parce que tu n'es pas vraiment le roi. Non, non, pour moi, tu es comme le roi. Ce n'est pas du tout pour ça que je te parle durement. Au Midrasho, et Rashi dit, et le Midrash sur ce verset, c'est Sofra l'ilkot alav, Betsarat, Kemo, chez Lakaparo, Alides Kenati, Sarah, Alaila Achat, chez Ikva. Premier Midrash que Rashi cite, il va en citer d'autres, c'est tu vas être puni. pour ce que tu fais. Tu es en train de retenir mon frère, prisonnier. Tu vas être puni pour ça. Comme l'a été ton ancêtre, l'ancêtre de Paro, quand il a voulu, quand il a, après avoir kidnappé Sarah, et avoir passé une nuit avec Sarah, Paro a été frappé, lui, toute sa, toute la cour, tout le monde a été frappé de lèpre. Toi aussi, tu vas être frappé. Autre chose, de la même manière que Paro prend des décrets, il dit des choses et puis ensuite il ne les tient pas, toi non plus, tu tiens pas ce que tu as dit. Parce que tu avais dit que tu voulais qu'on t'amène mon petit frère, parce que tu voulais jeter un œil sur lui. Jeter un œil sur lui, ça veut dire que tu vas en faire un esclave. C'est ça que tu tiens pas ta parole. Zuhi Simat Aïn, c'est ça que tu appelles poser un œil. Encore un autre Midrash. Kikamocha Keparo. Et finalement, c'est tu es pour moi comme Paro. Im Takniteni, si tu m'embêtes, si tu continues de nous embêter, Arogotra. Je te tuerai, toi et ton maître. Alors, c'est le Midrash qui dit ça. Ça veut dire, pourquoi le Midrash nous dit ça? Le Midrash, il nous dit tout ce qui passe par la tête de Yehuda quand il parle à Paro. Il lui parle comme on peut parler à un roi. Il va lui dire, il va raconter de nouveau l'histoire que Yosef, alors que Tsofnath Paner, c'est très bien, il va lui raconter toute l'histoire. Mais il est là en train de lui parler, et alors je te raconte une histoire que tu connais, mais dans sa tête, il se dit, t'es un menteur. D'ailleurs, si vraiment tu continues, je vais être obligé, je vais te tuer, je vais tuer Paro aussi. L'idée de mettre l'Égypte à feu et à sang, c'est une idée que Yosef a eue quand il a séparé, quand il les a renvoyés la première fois chez leur père, il a gardé Shimon comme prisonnier. Pourquoi? Parce que Shimon et Lévi, c'est la paire de gens, c'est les deux terreurs là qui ont massacré Shechem, tué toute la ville de Shechem. Ces deux terreurs-là, ils peuvent mettre l'Égypte à feu et à sang. Donc, il les a séparés. Y a un midrash intéressant, Vincent, que je vous l'ai déjà dit, c'est quand il leur a parlé, après, les frères, ils étaient en train de partir, et l'assistant de Yosef, donc du roi, il a mis la main sur l'épaule de Shimon et non, toi tu restes. Et le Midrash dit que Shimon, il a dit à ses frères, cette main-là, c'est une main de chez nous. C'est tellement fort, c'est une main de chez nous, cette main. Bon, il n'a pas été plus loin, mais, c'est-à-dire, c'était le fils, parce que l'assistant de Joseph, c'est son fils. OK. Alors ça, c'est le début de... Il y a un Midrash qui raconte l'échange entre eux. C'est vraiment terrible, quoi. Le Midrash, il raconte l'échange qui est en échange entre Yehuda et Yosef, en vérité. Parce que Yehuda et Yosef, c'est un couple qui s'oppose dans toute l'histoire de la Torah, dans toute l'histoire juive, en fait. Cette idée qu'on a deux Mashiach, etc. Un descendant de Yosef, un qui descend de Yehuda. Ma chère Ben David, c'est un descendant d'Yehuda. Le schisme qui a eu séparation du royaume d'Israël et du royaume de Juda, c'est la tribu majeure, la tribu la plus importante dans le royaume d'Israël, c'est la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, c'est Yosef. Et l'autre royaume, c'est le royaume de Juda. C'est toujours là, cette séparation est tout le temps là. Alors il lui dit, Adonis Sha'al et Avadav, mon Seigneur a demandé à son serviteur, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère, etc. Il lui raconte toute l'histoire, mais on ne va pas la relire, on la connaît, mais Yosef, il la connaissait aussi. Et il raconte ce que ça représente pour le père, etc. Et que son père voulait pas. Puis finalement, il a été obligé de céder. Et donc il lui dit, Yehuda, finalement, qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Il dit, Vata, et maintenant, Yeshevna avdecha tachat tanar, eved l'Adoni. Alors, maintenant, prends-moi comme esclave à la place de mon frère. Tu as tout à gagner. Je suis plus fort que lui, plus intelligent que lui, etc. Et le jeune homme, c'est-à-dire Binyamin, il rentrera avec ses frères chez notre père. Parce que je ne peux pas imaginer, je peux pas voir. Me voir arriver chez mon père. Mon père, il verra tout de suite que Binyamin n'est pas avec nous. J'aurai pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit, il sera mort. On ne peut pas faire une chose pareille. Mon père, il supportera pas que Binyamin ne revienne pas. Et du coup, le passouk suivant, il dit, Velo yachol Yosef leitapek, le cholanitzavim alav, vaikra, otziu cholish mealai, velo amadish, ito beitvada Yosef elechav. Yosef, il n'a pas pu se retenir à cause de tous les gens. Il était là, c'est la cour, donc tout le monde, plein d'Égyptiens sont là. Et il ne veut pas, il sait, voilà, je vais me dévoiler, mes frères, ils vont avoir honte. Je ne veux pas que les Égyptiens voient mes frères dans cette situation où il va être couvert de honte. Donc il a fait sortir tout le monde. Et puis il s'est dévoilé. Donc il a vaitenet kolo bibri, il a pleuré, etc. Et les Égyptiens ont entendu, tout le palais, la maison de Pharaon a entendu. Et Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Ses frères n'ont pas pu lui répondre, ni Valou, ni Panav. Ils ont été pétrifiés devant lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a demandé à Odavikha, est-ce que mon père est encore vivant? Il le sait qu'il est encore vivant. Quand ils sont arrivés, il leur a demandé si le père était encore vivant. Et c'est la réponse à ce que Yoda a dit. Yoda a dit, on ne peut pas faire ça à mon père. Alors Yosef dit, vous savez bien combien mon père m'aimait. Vous lui avez quand même raconté que j'étais mort. Et vous voyez bien, il a survécu. Donc vous n'aviez pas ce souci quand vous m'avez vendu et que vous lui avez raconté que j'étais mort. C'est le seul reproche qu'il leur fait ici. Mais eux, ils n'en peuvent plus, quoi. Alors, Rachid explique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas pu se retenir? Rachid dit, L'Oya Yachol Lisbol Shiyu Mitzrim Nitzavim Alav. Il ne pouvait pas il ne pouvait pas supporter que les Égyptiens qui étaient là autour de lui, ils entendent Chez Echav Mitbaishim, lorsqu'ils se dévoilent à eux, ils vont être couverts de honte et ils ne voulaient pas, comme je vous ai dit, ils ne voulaient pas que infliger ça à ses frères. Ils ne voulaient pas que les Égyptiens voient ses frères dans cet état de honte. Le Meshech Chochma, il dit un peu autrement. Il dit, il voulait se retenir. Pourquoi est-ce qu'il voulait se retenir? Alors, je vous dis d'abord ça, puis on va ensuite voir le sujet de façon plus générale. Il voulait se retenir, il voulait que Yaakov, son père descend en Égypte. Pourquoi? Parce que dans le deuxième rêve, il y avait le soleil, la lune, les 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Les 11 étoiles, c'est ces 11 frères qui sont précédés. Tout le monde est là. Binyamin est là. Ils sont tous prosternés devant lui. Ils sont arrivés. Mais là, il y a le père. Yaakov. Donc il veut que son rêve se réalise complètement. Donc il veut que Yaakov descende en Égypte et pourquoi il va descendre? Il pensait que si il retenait Binyamin, Yaakov viendrait lui-même l'aider, la cause de Binyamin. Pour ça qu'il voulait pas. En fait, il voulait pas céder. Et aïe, il dit, Loya lo lerachem alehem, tacher lo shamu bitranu alehem. Et on dit, il n'avait aucune obligation d'avoir pitié de ses frères. Ils n'ont pas eu pitié de lui. Quand il les a suppliés de l'épargner, mais seulement, il y avait tous ces Égyptiens qui étaient là, qui eux ne savaient pas ce qu'il y avait entre eux. Donc, Yosef, à leurs yeux, il apparaissait comme quelqu'un d'extrêmement cruel. Quelqu'un qui n'a pas de cœur, il est en train de. Tous les Égyptiens voient que les frères, ils sont prêts à tout, etc. Et lui, il est inflexible. Alors, il ne voulait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il a une certaine image, il doit avoir une certaine image chez les Égyptiens, il aurait cassé complètement son image si il finissait pas par céder. Donc il est obligé de céder. Pourquoi? Pas à cause des Juifs, quoi. Il cède à cause des goyim. Il cède à cause de son image. Il est obligé de travailler, il travaille son image de roi d'Égypte. Et il ne veut pas apparaître comme quelqu'un de trop cruel. Donc l'idée, c'est C'est ça l'idée. Et le Ramban, qui n'est pas d'accord avec Rashi, le Ramban, il dit la chose suivante. Alors, il faut l'expliquer un peu comme ça, ce Ramban. La question, c'est la première question. Yosef, quand il est en Égypte au début, il est en prison. On comprend que de sa prison, il ne puisse pas dire ou faire dire à Yaakov qu'il est vivant. Mais il est roi d'Égypte. Il n'a aucun moyen, aucun problème à faire savoir à Yaakov qu'il est vivant. Arrêtez de faire souffrir Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre qu'il fasse à ce point souffrir son père? Alors, je voulais juste ajouter un point à ce qu'il dit, à ce que dit, c'est ce que je comprends dans le Ramban, juste en ajoutant un point. Quand on regarde le texte de la semaine dernière, on voit dans le texte que quand les frères sont arrivés pour la première fois et qu'ils se sont prosternés devant lui, le texte immédiatement parle après cela, juste après cela, il parle du rêve de Yosef. Alors, je crois qu'il faut comprendre ça comme ça. Yosef, il a fait un rêve. Il en a fait deux même. Mais quand tout à coup ses frères arrivent et ils se prosternent devant lui, ça fait tilt en fait. Quoi? C'est en train de se réaliser, là, ce que j'ai rêvé. Par conséquent, il comprend que le rêve n'est pas un rêve. C'est une prophétie. Et il pense que il a une mission qui est celle de faire se réaliser la prophétie. Et c'est ça le, c'est pour ça qu'il avertit pas son père. Dès le moment où, quasiment il est, bon, c'est allé très vite probablement, ils sont là, ils se prosternent, on les comprend, c'est en train de se réaliser là, son rêve. Donc c'était une prophétie. Si c'est une prophétie, c'est autre chose. Un rêve, bon. Mais une prophétie, il pense que bon, il doit faire en sorte qu'elle se réalise. Ça, c'est comme ça que le Ramban explique pourquoi il voulait faire descendre Jacob. Ça, c'est pour que le rêve se réalise. C'est dans ce sens-là que va le Mesher Chokhma aussi. Donc, le Ramban, si vous voulez, il n'est pas d'accord avec le Pshat de Rashi. Parce que le père de Rachid n'explique rien, il n'explique pas pourquoi il a fait souffrir son père et son frère, etc. Mais le Ramban, il dit, voilà, moi j'ai une explication.
Rav,
Oui.
est-ce que je peux poser une question?
C'est déjà fait, oui.
Quand on a parlé des rêves de Paron, on a expliqué que les deux rêves, en fait, c'était la même chose. Là, on ne peut pas dire la même chose parce que les deux rêves de Yosef n'étaient pas exactement superposables, quoi. Dans le premier, il y avait que les frères et dans le deuxième, il y a. le père et la mère en plus, enfin le soleil et la lune. Parce que
Oui.
sinon, il aurait pu se contenter du premier rêve, une fois que.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que, puisqu'il y a un deuxième rêve, on peut se demander d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu que le deuxième rêve. Tout était dit dans le deuxième rêve. Mais on peut presque dire que ce qui lui a été dit, ben c'est que ça va se faire en deux temps. Il y a un premier temps où il n'y a que les frères qui se prosternent, et puis un deuxième temps où les frères et le père se prosternent. Là, ça, c'est le Ramban. Il y a Ababanel. Ababanel, donc c'est beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Ababanel, c'est l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, 1492. Et le Ramban, c'est le 13e siècle. Ababanel, c'est le ministre des Finances d'Isabelle la catholique. Ababanel, c'est Don Isaac Ababanel. Il est tellement nécessaire à l'Égypte, à l'Espagne, que Isabelle lui a dit, écoutez, on a besoin de vous. Vous pouvez rester en Espagne, vous et votre famille, et vous pourrez pratiquer votre judaïsme. Et à ce moment-là, Torquemada est arrivé. Il a dit, tu es en train de vendre l'Espagne, ce juif. De toute manière, il ne voulait pas. Ababanel n'avait pas accepté. Il a dit, moi, je pars avec tout le monde. Il est parti, tout le monde, et il a écrit des commentaires de toute la Torah et du Tanakh, et des commentaires du Sefer Daniel. Il a commenté le Moreh Nevouchim, le Guide des Égarés de Rambam. Il a encore d'autres. Il a écrit énormément. Mais il y a toujours la fameuse anecdote, là, que peut-être vous connaissez déjà. C'est que la façon de commenter de Ababanel, c'est que il prend un sujet et il pose 15 questions, toute une liste de questions, de contradictions internes du sujet. Et puis à la fin, après ça, il ramène les opinions de tous ceux qui ont répondu partiellement, totalement aux questions qu'il a posées. Puis ensuite, il amène son opinion. Il dit comment lui comprend les choses. Alors, on raconte toujours que c'est un bon juif qui te dit à Ababanel, Shabbat après-midi, après le chant. Et donc, il travaille, il lit toutes les questions, et puis après les questions, il s'endort. Au bout d'un moment, plusieurs Shabbats passent. Il devient un hérétique. Il dit, mais cette Torah, elle est pleine de questions. Il n'y a absolument jamais de réponse. Ça marche jamais. Il n'y a pas de raison d'avoir confiance dans cette Torah. Pour dire que d'abord, c'est très, très, très long. Il y a peu de gens qui lisent ça. Il y a en Amérique des gens qui ont fait aussi des résumés pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il veut dire sans avoir à tout lire. Bon, c'est un énorme Talmid Chacham. Et lui, il n'est pas du tout d'accord avec Ramban. Il dit, mais de quel droit? Parce que lui, il pense que c'est une prophétie, ça ne lui donne pas le droit de faire souffrir. Il n'a jamais reçu un ordre, bien sûr. Ce qu'il a reçu, c'est une information, c'est une annonce. On lui a annoncé qu'il allait devenir roi. Mais pas du tout que c'était à lui à faire en sorte de le devenir. Donc Ababanel n'est pas du tout d'accord. Il dit on peut pas du tout admettre, lui qui n'a pas reçu d'ordre, a le droit de manipuler comme ça la réalité. OK? Maintenant que tu as descendu le Ramban, alors c'est quoi ta théorie à toi? Alors le Ramanel, il dit que là, Yosef voulait s'assurer que ses frères avaient fait tchouva. Ils avaient vraiment fait tchouva. C'est-à-dire, le fait de l'avoir vendu, lui, l'avoir condamné, etc., ça avait un parfum de lutte entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. L'enfant de Léa, qui sait qui est celui qui a toujours les idées les plus terribles pour contre Yosef, c'est Shimon, les enfants de Léa. Et donc, il y a un parfum de lutte contre les enfants de Rachel. Alors, Abravanel dit, il voulait voir. Yosef, il a mis un traducteur entre lui et ses frères. Lui est censé être un Égyptien et il est censé ne pas comprendre ce qu'ils disent. Donc, il a mis un traducteur. Donc, eux, ils s'imaginent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, on a vu la semaine dernière qu'ils se sont dit, c'est Elohim qui est en train de nous faire payer le fait qu'on n'a pas écouté les supplications de notre frère, etc. Et lui, il entend ça. Donc, il comprend qu'ils sont en train de faire tchouva. Mais il se demande, est-ce que vraiment ils font tchouva ou c'est seulement que. Alors, il a imaginé un test. Et son test, c'est Benyamin. On va voir. On va voir s'ils vont défendre Benyamin. Je vais mettre dans une situation, je vais mettre Benyamin en situation très, 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 très désagréable, grand risque de devenir esclave, etc. Benjamin va devenir esclave exactement comme lui était esclave, comme eux, ils l'ont vendu comme esclave. Et il se dit, ben, on va voir si les frères s'investissent pour sauver Benjamin ou pas. Et quand il voit, comme on l'a vu ici, que Yehuda s'investit à fond jusqu'à dire, ben, prends-moi à la place de Benjamin, il comprend qu'ils ont vraiment fait tchouva. Ça, c'est la thèse d'Abravanel. Le problème, ressenti, c'est qu'on peut objecter à Abravanel exactement ce qu'il a objecté au Ramban. Quel droit il avait, vous voulez les faire souffrir pour vérifier qu'ils ont fait tchouva, c'est son problème. Ou bien tu les crois qu'ils ont fait tchouva, tu attends, mais faire souffrir tout le monde, y compris son père de nouveau, en lui arrachant Binyamin alors qu'il ne veut pas le donner, faire souffrir Binyamin, faire souffrir tout le monde, de quel droit? Et on peut poser la même question que celle qu'il a posée à Ramban, à Abravanel. Bon, je vais quand même répondre. Bon, il y a d'autres réponses, mais une réponse, ce serait de dire la chose de la manière suivante. Il ne s'agit pas ici de savoir si 10 personnes ont fait tchouva. C'est pas ça qui est en jeu du tout. C'est pas ça. Le problème ici, c'est que Yosef se dit, il y a une raison pour laquelle je suis là. Il a quand même vu que tout s'est passé de façon totalement extraordinaire. D'abord, il a été condamné à mort, mais ensuite ils l'ont gracié. Ils l'ont vendu, le voyage s'est fait. Bon, il était esclave, mais il aurait pu être transporté avec du goudron, etc. Il est transporté avec des parfums. C'était beaucoup plus agréable. Il arrive chez Potiphar et Hachem fait en sorte que tout ce qui touche chez Potiphar est béni, quoi. Alors Potiphar le laisse. Il lui laisse la maison. Comme il le dit à Madame Potiphar. Dans cette maison, il n'y a pas de différence entre ton mari et moi. La seule différence, c'est toi. Je peux pas faire le sale coup à ton mari. Je lui prendre sa femme. Et ensuite, il est en prison. Et là aussi, tout se passe très bien. Alors, c'est vrai qu'il va passer 10 ans en prison. Plus 2 ans parce qu'il a parlé à l'échanson. Donc, il fait 12 ans dans la prison. OK. Mais quand quelqu'un est accusé d'avoir de tentative de viol ou de séduction de la femme de son maître et qu'on est esclave, on avait déjà dit, c'est pas dans une prison qu'on l'envoie. Il est mort tout de suite. On le tue tout de suite. On n'a aucune forme de. Autre forme de procès. Et dans quelle prison il l'envoie? Dans la prison des princes. Et quand les esclaves vont dans la prison des princes? Et ensuite, il voit tout à coup que c'est vrai que le chanson, il voulait pas, il lui a pas, ça a duré longtemps, ça a duré 2 ans jusqu'à ce que ça bouge. Et maintenant, ça bouge et tout de suite, il arrive où? Devant Paro. Et qu'est-ce qui arrive? Il est vice-roi d'Égypte. Sûr que quand je sais pas si vous avez déjà vécu ça, je sais pas. Mais si vous l'avez pas vécu, c'est difficile d'imaginer. Et donc, quand il voit tout ça, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi Hachem m'a mis ici? C'est donc bien que j'ai quelque chose à faire ici. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, bon, je pense qu'il faut l'entendre comme ça. Le clan d'Israël, il va naître avec la sortie d'Égypte. Donc, tout le temps qu'il est en Égypte, c'est la grossesse, en quelque sorte, avant la naissance. Et avant, ben c'est la conception. Donc, en fait, lui, Yosef, il est dans le temps de la conception. Prends ça comme image. Parce qu'on a une question. Yosef, avec son projet économique, il a quand même eu comme conséquence très très importante de faire en sorte que tous les propriétaires terriens sont dépossédés. Tout appartient à Paro. Ils sont obligés de vendre leurs terres. Et ça ne suffit pas. Ils sont obligés de se vendre eux-mêmes comme esclaves de Paro pour avoir à manger. Je raconte que Yosef, il leur a imposé de faire la Mila. Alors ils sont allés se plaindre à Paro. Alors Paro leur a dit, mais c'est votre faute. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, pendant les années d'abondance, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis de côté pour les années de famine? Tout le monde savait qu'il y aurait la famine. Ils ont dit, mais on a mis de côté, mais ça a pourri. Et bon, d'accord, vous avez bien de la farine, mais la farine aussi, elle a pourri. Tout a pourri. Alors, il dit, ben dans ce cas-là, vous êtes obligé d'en passer parce qu'il vous l'a demandé. Il vous demande de couper une partie de votre viande, là, de votre corps, ben vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez pas le choix. Mais la résultante, ça qu'on regarde, c'est Paro est devenu le propriétaire de l'Égypte. Tout est à Paro. Sauf les Kohanim, sauf les biens des prêtres, il n'a pas touché Yosef. Certains disent que c'est parce que c'est pour que plus tard on ne touche pas la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, ils n'ont pas été réduits en esclavage. Ils n'étaient pas aux anges, mais ils n'étaient pas esclaves. Travaillez pas, si vous voulez, en tout cas. Alors, tout est chez Paro. Mais pourquoi il est en train de grandir Paro? Alors, on a déjà dit, il grandit Paro parce que il faut que Paro soit un interlocuteur valable pour Moshe Rabbeinu et pour Akash Bokou dans la sortie d'Égypte. Sinon, quoi, Moshe, il va aller discuter avec tous les petits propriétaires. Toi, t'as 10 esclaves, libère-les. Toi, t'en as 15, libère-les. Là, il va faire pas du tout. Tout est à Paro. Et on discute qu'avec Paro. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il met en place ce qui, paradoxal, il faut dire, il met en place la sortie d'Égypte. Mais pour mettre en place la sortie d'Égypte, il faut commencer par mettre en place l'entrée en Égypte et la condition d'esclave. C'est ce qu'il est en train de faire. OK, on n'est pas encore esclave, ils ne sont pas esclaves du tout, les Israéliens. Mais bon, ils vont le devenir. Mais pour l'instant, il a mis Paro en place. Maintenant, le problème, c'est le peuple juif, en fait. Le peuple. J'avais dit déjà que il y a cette fameuse question du Gaon de Vilna. Vous vous souvenez, sur le passouk qui dit que il faut que toute femme emprunte auprès de Réhouta, de sa prochaine. C'est Réa, c'est Réa Hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La forme féminine, c'est Réhouta. Et donc, dans le passouk, c'est marqué que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit au Bnei Israël, que chaque femme emprunte auprès de sa Réhouta les arbres, les chesef, les zahav, les ustensiles en or, en argent, etc. Ok, tout le monde l'ironne comme ça. Mais le Gaon de Vilna, il envoie une bombe. Il dit jamais dans la Torah, jamais, le mot Réa ou Réhouta s'applique à un goy. Mon prochain, c'est pas un goy. Ça ne peut pas être un Mon prochain, c'est le prochain dans les que ce qu'il leur a demandé de faire, c'est d'emprunter auprès des autres une femme juive auprès d'une autre femme juive. Emprunte. Tu empruntes et tu rends, etc. Pourquoi cela? Il avait expliqué que quand les gens sont esclaves, c'était la situation des Bnei Israël à ce moment-là, ils étaient esclaves et ils en étaient à chercher leur souffle. Ils n'arrivaient pas à respirer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu entendre Moshe. Ouais. Kotser Ruach, ils n'avaient pas le souffle. Donc, quand on en est à rechercher le souffle, alors on est complètement centré sur soi. On s'occupe que de soi. Donc il n'y avait pas de relation entre les Bnei Israël. Et par conséquent, il y a aucun tissu. Il n'y a pas de relation tissée, donc il n'y a pas de tissu. Mais si les Bnei Israël ne sont pas un tissu, pas du tout. Alors, ils sont beaucoup trop loin. Ça n'a rien à voir avec. Un peuple Il faut au moins que les gens aient des relations entre eux. La situation renfermait chacun sur soi. Et par conséquent, ce que d'après le chat du Gaon, Sachem m'a demandé, je veux que relations. Ah, vous dites, mais l'or et l'argent à l'Égyptien. Les Égyptiennes, quand elles ont vu la qualité de la société qui était en train de se faire, que les gens s'empruntent, etc., oui, ben nous, on veut en être aussi. Donc, c'est comme ça que on a pu emprunter chez les Égyptiens aussi cet argent qu'on leur a pas rendu et qu'on a pris quand on est parti en Égypte, d'Égypte. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Je répète ici ce que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Maintenant, chez Yosef, on n'en est pas encore là. Ils ne sont pas en esclave, ils ne sont pas esclaves. Mais le mérite des Bnei Israël, les 20% là qui vont sortir d'Égypte, il n'y a que 20% qui sortent. Ces 20%-là, ils sortent et on dit qu'ils ont un mérite. Un mérite, c'est qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas fait de mariage avec les goïms, etc. C'est les sfrouyot qu'on répète tout le temps. Grâce à ça, ils sont sortis d'Égypte. En même temps, ces gens-là, ces juifs-là, ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Au passage de la mer, quand ils sont sortis, les anges se tournent vers Hachem, ils disent, mais c'est une injustice flagrante. Pourquoi tu sauves ceux-là et tu noies ceux-là? Ceux-là sont idolâtres et ceux-là aussi sont idolâtres. Deux poids, deux mesures. Alors, Hachem va répondre. Mais on voit ici, ils sont idolâtres encore. Au passage de la mer, à Shvi'i el Pessah, le 7e jour de Pessah, ils sont encore idolâtres. Ils ne se trompent pas, les anges. Et Hachem ne dit pas, ils ne sont pas idolâtres. Ils sont idolâtres. Mais ils vont accepter la Torah. Donc, quelque part, ça obéit pas vraiment aux règles du jugement dont on parle toujours à Rosh Hashanah, qu'on tient compte de l'état dans lequel on est, on ne tient pas compte du futur. Si Hachem tenait compte du futur quand il nous juge, on serait mal en point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, cette condition pour devenir un embryon de peuple. Cet embryon de peuple, il va, en tant qu'embryon, fœtus, il va sortir d'Égypte et en 50 jours, il va devenir un peuple. Et au Sinaï, 50 jours après, on est un peuple. En vérité, ça a duré la transformation. Puisque le 7e jour, on était encore esclave, on était encore idolâtre, d'accord? Et au 50e, on a reçu la Torah. Donc entre 7 et 49, on a changé. Mais pour sortir, il fallait qu'il y ait un peuple, un embryon, quelque chose. Alors le tissu, il est fait grâce au fait que ils se sont. Et maintenant, un peu plus que ce tissu complètement artificiel, qui a été fait sur ordre, qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes par eux-mêmes? Ben, c'est ça qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils sont idolâtres. Ce n'est pas des pieux, hein. Il n'y a pas de Torah encore, mais l'idolâtrie, c'est interdit, même pour les goïms. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réussi à appartenir à quelque chose. Garder ces noms. Ne pas se marier à l'extérieur, garder les etc. C'est des éléments qui sont simplement une manifestation de j'appartiens à ce peuple, je suis de ce peuple-là. J'appartiens. Une espèce de solidarité, de. Et donc, en fait, ah, toi, je dis, ah ouais, c'est mes petits-enfants. Il a travaillé, et Youssef, il travaille pour ça aussi. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la tchouva, mais c'est tchouva sur un point fondamental. La tchouva qui fait que il faut recoller les morceaux, vérifier que les enfants de Léa et les enfants de Raphaël ne sont pas en opposition. Fabriquer le peuple juif, en fait. C'est un élément fondamental. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça la tchouva qu'il veut vérifier. C'est pas la masse de l'histoire. C'est pas la piété, en quelque sorte. Bon, c'est, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui pourrait donner un peuple? Ou est-ce que il y a dès le départ une incompatibilité, quelque chose qui fera qu'il n'y aura jamais un peuple. Et on peut se demander d'ailleurs, si on regarde l'histoire, on a l'impression que non, ça n'a pas marché. Nous, on est descendants de la tribu, enfin, du petit royaume de Juda, deux tribus et demie. Les 9 tribus et demie ont été exilés par Sanhérib en Assyrie, les traces. Alors, il y a peut-être bien des gens des différentes tribus qui étaient en business ou ailleurs, ou bien dans le royaume de Juda ou ailleurs, qui n'ont pas été déportés par Sanhérib. Donc, on peut très bien imaginer qu'il reste à l'intérieur du clan d'Israël des représentants des 12 tribus. C'est possible. Mais en tant que tel, formellement comme masse, en quelque sorte, pas une grande masse, c'est plus petit, mais il n'y a que les Judéens. La tribu, le royaume de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, de Binyamin et la moitié de la tribu de Ménaché. C'est-à-dire Juda, Ya, Binyamin, Raphaël, et Ménaché, aussi un descendant de Raphaël. Et comme Binyamin est une petite tribu par rapport à Yehuda, il y a un et demi, quoi. C'est un et demi, c'était une grande, plus grande tribu qui donne son nom à la fois au royaume et puis à nous aussi. On est Yehudim. On a un nom qui vient de Yehuda. Et donc c'est ça l'idée de, semble-t-il, d'Ababanel, enfin, pas si c'est comme ça que Ababanel pensait, mais on peut essayer de défendre Ababanel de cette manière-là. Parce qu'en fait, tout le travail de Yosef, sur le plan Paro, il a construit Paro. Il a construit des aides. Il a mis en place, il a vérifié là. Ce qu'il voulait vérifier là, et il a, ça s'est fait. C'est pas lui qui l'a fait, mais il en avait le souci. À la limite, pourquoi est-ce que je suis là? Pour effectivement vérifier qu'il y a les éléments pour un peuple, parce que c'est bien d'avoir Paro, mais s'il n'y a pas de peuple, ou il n'y a pas d'embryon de peuple, ou même pas des éléments qui permettront de fabriquer un embryon de peuple, mais vraiment dans la conception pratiquement. Et puis ensuite, bon, il faudra passer, pourquoi il faut passer par le galoute, mais ça c'est pour des shiurim ultérieurs, on parlera de sortir d'Égypte, sortie d'Égypte, mais On parle maintenant justement, disons, dans mon image, c'est l'image que j'ai choisie, donc c'est plutôt la conception avant on est vraiment la grossesse. Et pour ça, et il va mettre en marche le commencement de la chose. Jacob va descendre aussi. Donc tous les bénis d'Israël sont en Égypte. Ils ne sont pas esclaves, ils sont déjà en Égypte. Alors, si on dit comme ça, alors si on regarde encore un peu plus tôt, avant la conception, disons, et ce qui s'est passé juste avant, mais c'est pas ce qui s'est passé juste avant, c'est Yaakov qui a envoyé Yosef chez ses frères. C'est Yaakov qui envoie Yosef au casse-pipe. Il envoie Yosef, comme on l'a dit dans le Shiurim, il envoie Yosef, il sait très bien que les frères le détestent, et de facto, ils vont essayer de le tuer. Ce qui est intéressant quand même, bon, c'est que les frères qui ont lâché les chiens contre lui, s'ils ont lâché les chiens, c'est qu'ils pensaient que normalement les chiens allaient le dévorer. Les chiens font rien. Et eux, ils ne se posent pas de questions. Tu lâches les chiens, sans, tu donnes vraiment des ordres à ces chiens. Les chiens, leur maître leur donne l'ordre d'aller bouffer le type là en face. Les chiens ne font rien. Comment se fait-il que tous ensemble, là, 10 des fils de Jacob, 10 des tribus, des Shvatim, aucun n'a soulevé le problème, mais dites-moi, peut-être qu'on est en train de se tromper complètement. Si Hachem le sauve, ok. Nous, on a l'impression de quoi? À quel titre est-ce que ils ont jugé Yosef coupable. Ils l'ont traité comme un Rodef. Rodef, c'est quelqu'un, c'est une halakha. Rodef, c'est quand A poursuit B pour le tuer, A a un statut de Rodef. Rodef, c'est le poursuivant. C'est un poursuivant. Et les autres doivent empêcher A de tuer B. Et pour ce faire, s'ils peuvent tirer dans les jambes, c'est bien. Mais si on ne peut pas l'arrêter sans le tuer, ben on peut le tuer. Un Rodef, c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, il a permis qu'on le tue. Lui, il veut tuer, on va l'empêcher. Une fois qu'il a tué, ça n'a plus de sens, on ne peut plus le tuer. Enfin, il faut l'amener au tribunal, on va le juger, éventuellement, on va le condamner à mort, mais tant qu'il est Rodef. On pourrait considérer que Yosef était un Rodef. Pourquoi il est un Rodef? Parce que comme il rapportait toujours ce qu'il croyait être des fautes, des avérotes de ses frères, les frères ont compris que ce qu'il était en train de faire, il était en train de casser leur relation avec leur père. En train de les présenter à leur père comme des vauriens. Donc il était en train de les tuer spirituellement, quoi. Il va les couper de relation avec leur père. Donc ils ont jugé qu'il était un Rodef, on pouvait le tuer. Mais le problème, c'est qu'un Rodef, on peut le tuer quand il est en train de faire les choses. Mais pas quand les choses sont faites. Donc normalement, un Rodef, il ne passe pas au tribunal. C'est peut-être ça qu'ils ont pensé. Quand il vient nous voir, il vient nous espionner, il va raconter des trucs sur nous à le faire. Donc il est en train de nous briser, de nous casser, quoi. Donc on va lâcher les chiens le bouffent. Alors cette histoire de, il voit que il n'y arrive pas. Bon, c'est possible, ils ne réagissent pas. T'es aveuglé probablement par la jalousie. On a vu que quand ils l'ont condamné, Réhouven est intervenu. Et Réhouven a dit, on va pas tuer papa. Et il leur a dit, mettez-le dans le puits là. Lui pensait, Réhouven pensait, il est dans le puits, et moi je le sortirai, je l'amènerai à mon père. Mais il a dû s'éloigner, il a dû s'éloigner, et quand il est revenu, ben, il n'était plus dans le puits. Il avait déjà été vendu. Mais le problème, c'est ce puits, Chazal disent, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des scorpions et des serpents. La halakha, elle est, si quelqu'un tombe dans un puits dans lequel il y a des scorpions et des serpents, et ensuite, on n'a plus trace de lui, mais sa femme, elle peut se remarier. Parce que c'est sûr qu'il est mort. C'est mortel. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Au lieu de le tuer, on le tue comme ça, on va le tuer en le mettant dans un, en donnant à bouffer au scorpion, enfin, au serpent et au scorpion. Qu'est-ce qu'il pensait, Rouven? Rouven pensait, c'est vrai que, à vue, Yosef, il est réhabilitable, mérite la peine de mort. Mais, nous, on n'est pas tout à fait certain, pensait Réhouven, d'être objectif. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'Hachem n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous, on a le libre arbitre. Peut-être qu'on se trompe. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà. Les animaux, ils n'ont pas le libre arbitre. Donc ils ne font que ce qu'Hachem leur dit de faire. Par conséquent, si il est dans le puits, s'il ne mérite pas la mort, il ne mourra pas. Parce que les animaux, ils ne vont pas le tuer si Hachem n'est pas d'accord. Nous, d'une certaine manière, on peut le tuer même si Hachem n'est pas d'accord. Ben, c'est un gros problème, ça. Je vais revenir tout de suite. C'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est de pouvoir faire les choses qu'Hachem nous a dit de ne pas faire. Mais où est le rachamim d'Hachem? Hachem, il est aussi, il agit par tendresse Et il ne sanctionne pas obligatoirement ceux qui méritent d'être sanctionnés. Alors, Rahim, assez connu, il dit que si on demande est-ce qu'Hachem veut le mal, la réponse c'est non. Mais si on demande est-ce qu'Hachem va laisser faire le mal, la réponse est oui. Quand les gens posent la question sur 33-45, où était Hachem, c'est la question elle est mal posée, c'est où était l'homme? C'est ça la question. La vraie question. Parce que le mal, c'est une nécessité dans le système du libre arbitre. Il y a un ouvrage qui a traité de ce problème-là. Il s'appelle Chovot HaLevavot. En français, ça traduit le devoir des cœurs. C'est d'un auteur qui est du 11e siècle, avant Rambam, avant Maïmonide. Et lui, il dit la chose qui est difficile à penser. Il dit, quand A tue B, A est libre. Il dit, c'est ça le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il y a avec B? B, de toute manière, il devait mourir. Donc, ça veut dire, Hachem va se débrouiller pour que A, qui veut tuer, il tue quelqu'un qui, de toute manière, méritait de mourir. Donc, c'est quand même un peu difficile à comprendre. Mais Hachem a créé un monde où l'homme a la possibilité de faire le mal. Parce que cette possibilité de faire le mal, c'est ça qui le rend autonome, en fait. Il ne pouvait faire que le bien, ça s'appelait autonome. Donc le raisonnement de Reuven, c'est ça, c'est avec toutes les précautions qu'on a prises, peut-être qu'on s'est trompé. Et du coup, on va vérifier. On va vérifier pour savoir ce qu'Hachem veut. Est-ce qu'Hachem va donner l'ordre au serpent scorpion de le tuer ou non? Et de facto, ils ne l'ont pas tué. Il était dans le puits jusqu'au moment où ils l'ont sorti pour le vendre. Les serpents et scorpions n'ont peut-être pas besoin de beaucoup de temps pour tuer quelqu'un. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'est pas mort non plus quand il a été accusé d'avoir voulu séduire ou violer la maîtresse, sa maîtresse ou la femme de son maître. Plein de miracles, en fait. Hachem a décidé que ce n'est pas le moment pour lui de mourir. Par contre, Yosef, il va mourir avant ses frères. Parce que il s'est un peu enorgueilli face à eux. Il s'est quand même posé en roi face à eux. Tout se paye. Ça aussi, il faut qu'il le paye. Les frères, ils voient que Yosef, il leur tient un drôle de discours, hein. Il leur dit, rapprochez-vous de moi. Il leur dit, je suis Yosef, votre frère. Vous m'avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas tristes. Ne soyez pas en colère les uns contre les autres. Vous m'avez vendu, mais en fait, Hachem m'a envoyé comme nourricier. Je suis là. Hachem m'a envoyé en avance, avant vous. Je suis arrivé avant vous en Égypte. Parce que il y a déjà 2 ans de famine qui ont passé, mais il y en a encore 5. Et Elohim m'a envoyé pour vous assurer une subsistance, survivre. Et après, il continue, il dit, mais maintenant, lo'atem shlachtem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Qui a Elohim? C'est Elohim qui m'a envoyé ici. Veuillez simenin le av le paro, ou le ordonne le chol peto, ou Moshe me choléra si Mitzrayim. C'est pour ces paroles, il a. Hachem m'a envoyé, il m'a mis, je suis le patron de paro, je suis le maître sur sa maison, et je domine toute l'Égypte. Tout le pays d'Égypte. Alors il les envoie vers leur père, aller dire à mon père que je suis vivant et que je suis roi d'Égypte, quoi. Et dites-lui de descendre, de venir. Je vais nourrir toute la famille. Descends avec tout le monde, je nourrirai tout le monde. Donc, il a embrassé chacun de ses frères, ils ont pleuré. Ensuite, ils ont parlé. Donc les choses sont arrivées à aux oreilles de Paro qui a dit à Yosef, oh, bah, envoie chercher ton père, etc. On va s'occuper de lui et tout. Voilà. Comme ça, on comprend, je crois, quand même un petit peu mieux ce qui s'est joué là entre les frères. Ça touche les grandes questions parce que y a tout le problème du libre arbitre, hein, qui est derrière l'affaire. Et on ne va pas le résoudre ce soir.